avec Julio de Vita au Festival d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
On va parler du spin-off de Torgal consacré à Chris de Valnor. Et puis on reviendra aussi sur la série Wisher. À l'occasion de la sortie du troisième spin-off déjà des mondes de Torgal, on va revenir sur votre travail au niveau de Chris de Valnor. Comment est-ce que vous êtes arrivé à dessiner un spin-off de la série ?
Moi j'ai travaillé longtemps pour la maison d'édition Lombarde. J'avais fait une série assez connue comme James Hiller, qui c'était un polar. Après j'ai fait comme tout... Je disais tout à l'heure une série urban fantasy qui s'appelait Wisher. Et à la fin du cycle de Wisher, j'étais en train d'évaluer plusieurs propositions. Après un peu de temps, j'ai reculé sur plusieurs propositions. Et heureusement, on m'a proposé de faire ça. La chose que je reviens un peu à l'arrière, quand j'ai travaillé sur les séries précédentes, les scénaristes de Torgal et de Chris de Valnor, même Yves Saint, étaient directeurs éditoriaux de la maison. Elle m'avait demandé plusieurs fois avec qui j'aurais voulu travailler. Et j'avais dit toujours, ah oui, avec toi, Yves. Et après quelques années, la sorte m'a amené cette chance. Donc on m'a proposé de faire un essai sur une planche de Chris de Valnor. J'ai fait cet essai et il a plu et ils m'ont pris. Je suis très content parce que j'ai appris après qu'avant moi, plusieurs dessinateurs avaient fait cet essai et tout le monde était refusé, donc voilà, je suis assez fier de ça.
Comment avez-vous travaillé ? Parce que vous avez à la fois une fidélité par rapport au trait original de Rosinski, mais on note vraiment un côté personnel, votre côté personnel, sur, notamment sur les personnages. Il y a quelque chose en plus, une petite patte à vous. Comment est-ce que vous avez réussi à concilier les deux ?
Je ne me suis pas posé la question dans cette manière. J'essaie d'expliquer. Je sens que faire la BD ne veut pas nécessairement bien dessiner, mais il faut bien raconter. Et les dessins, je les considère pas comme l'expression plus importante de la BD, mais comme un outil pour raconter. C'est comme quand on raconte une histoire à un enfant, on change un peu notre vocabulaire pour nous faire mieux comprendre et pour mieux amuser l'interlocuteur. À chaque histoire que je raconte, j'adapte mon style à les genres de l'histoire, à ce qu'ils demandent, les personnages, l'interlocuteur, qui est le target de notre métier. Pour le cas de Torgal, il est un univers tellement défini, clair, qu'il a une histoire, un succès tellement énorme, qu'il y a une seule fois de les raconter. Et c'est la façon qu'a utilisé Grégor. Une fois appris ça, je me suis mis au service de cette histoire, donc j'ai pas copié le style de Grégor, mais j'ai trouvé le style, j'ai pris le juste style pour raconter les histoires de cet univers. Sans trop obligation, c'est pour ça que on remarque les côtés Julio De Vita sans être un clone.
Est-ce que vous avez pu choisir de travailler sur Chris de Valnor, sur ce spin-off-là en fait, ou est-ce que ça a été imposé que ça soit celui-ci et pas Louvre par exemple ?
Non, c'était une question, je pense, chronologique, parce que à l'époque, Chris de Valnor était le premier spin-off. On n'aime pas trop appeler ça un spin-off, mais en série parallèle. Mais c'était le premier projet dérivé de Torgal. Et donc, j'étais là pour faire ça. Et évidemment, Chris est l'ennemi principal de Torgal, est un personnage tellement connu, aimé, détesté, aimé, que pour moi, c'est un plaisir de le faire. Mais de toute façon, c'était la seule proposition que j'ai reçue.
Est-ce que vous savez s'il y a un nombre de tomes définis sur cette série-là ?
Oui, pour l'instant, on travaille sur un cycle de 6 albums. Il y a encore du temps parce qu'on est au 13e. Maintenant, je suis en train de travailler sur le 4e, qui va sortir en novembre de cette année. Il y a encore du temps pour décider si ce cycle pourra se développer en 6 ou 7 tomes. En tout cas, on est là. Une fois terminé ce cycle, on décidera si on aura le même feeling d'aujourd'hui, on aura la même passion. Je n'ai aucune raison pour douter de ça. On fera d'autres cycles.
Est-ce que vous étiez lecteur de Torgal avant d'être sur le projet ?
Pas un vrai lecteur. J'ai jamais été un grand lecteur de BD, mais un grand admirateur des dessinateurs. Donc j'admirais et j'admire encore Grégor. J'ai pas lu toute la série, mais j'étais au courant, je suis au courant de l'évolution de la série et des remarquables chefs-d'œuvre de sa plume. Et en plus, de plus, car je suis italien, comme vous entendez, on n'a pas la chance d'avoir toutes les publications, c'est pas tout à jour, donc voilà.
Donc vous avez travaillé, nous en tout cas sur l'autre monde, on vous connaît pour la série Wisher, qui était une série de urban fantasy très spectaculaire au niveau du dessin, très coloré aussi. Est-ce que vous avez travaillé différemment au niveau des techniques pour faire la série Crise de Valnor et pour faire Wisher, ou est-ce que c'était exactement la même chose pour vous?
Une fois que j'ai expliqué la chose que je viens d'expliquer tout à l'heure, que j'adapte les styles à chaque histoire, oui, j'ai changé complètement, même les outils sur Chris, parce que des histoires contemporaines, il faut avoir un trait, à mon avis, un trait plus propre pour suivre le monde qu'il est un peu tout contrôlé, logique, rationalisé d'aujourd'hui. Donc il faut faire des traits détaillés, comme ça. Et par contre, le monde de Thorgal est très sauvage, inventé parfois, parce que c'est pas historique, plutôt fantasy historique, et est vraiment parfois impressionniste, parce qu'on donne beaucoup de suggestions plutôt que d'écrire les décors tels quels comme ils sont. Donc j'ai changé des outils, j'ai changé le papier et j'ai changé le rythme de travail, parce que j'aime bien raconter, appeler ça le rythme du trait. Est très différent. Pour faire un dessin plus propre, il faut aller plus doucement. Pour faire des choses plus énervantes, il faut vraiment faire danser la plume sur le papier.
Qu'est-ce que vous préférez dessiner, du coup? Quelque chose de moderne ou quelque chose de complètement fantastique, ou quelque chose qui va s'inspirer des architectures anciennes, qui soit plutôt plongé dans l'histoire, etc.?
Moi, je suis prêt à tout dessiner. L'important, c'est que la scène soit crédible, soit vivant, les personnages peuvent me faire rêver qu'ils sont des vrais personnages et ne sont pas des lignes noires sur le papier, mais je dois imaginer que la case soit une fenêtre sur une autre dimension et je peux entrer là-dedans et vivre l'histoire avec eux. Ça, c'est la chose qui me fait passionner, qui me fait rêver pendant mes longues heures de travail au bureau. Ça me passionne. S'il y a des scènes gratuites ou seulement pour faire des bagarres, des poursuites sur les rues, je sais pas, des choses comme ça, ou de la violence gratuite sans aucune émotion derrière, je trouve toujours que je ne vaut pas la peine de perdre du temps à dessiner. Si par contre il y a des émotions derrière, je vais passer le plus de temps possible avec cette scène.
Est-ce que vous aimez dessiner les couvertures?
Je comprends la raison de cette question. Moi, j'aime bien parce que je viens de la publicité. J'ai commencé à dessiner pour la publicité. Donc, les couvertures sont un peu comme des affiches publicitaires. Mais pour Chris de Valnor, pour garder une ligne de continuité avec la série mère, pour ne pas trahir les lecteurs, pour avoir la confiance du lecteur que c'est un projet qui n'est pas seulement une question économique, commerciale, mais quelque chose que l'auteur principal suive vraiment avec passion, et on partage tout le monde avec comme une équipe de football pour le même but. Grégor a décidé de faire ce cadeau à moi. Et pour moi, c'est vraiment un grand honneur d'avoir ces couvertures. Il me pousse toujours à essayer de faire les couvertures de Chris de Valnor. Mais car sa technique est très particulière, avec l'huile sur l'étoile, les formats sont énormes, énormes, énormes. J'ai fait des essais, mais je ne suis pas encore capable d'arriver là. Donc, je vais continuer à m'entraîner, mais un jour arrivera.
Est-ce que vous avez d'autres projets à part cette série parallèle de Thorgal?
Des BD purs, non. Pour l'instant, je me suis dédié complètement à Chris. Même si je commence à avoir, maintenant j'ai plus de confiance, je suis vraiment à l'aise avec les personnages. Je pourrais déjà avoir le temps pour faire un autre projet. Mais pour l'instant, ici à Angoulême, je présente un spectacle dessiné qui s'appelle Les Visionnaires, qui est une expérimentation stylistique de médiation, on dit, des mélanges linguistiques entre la musique, la narration, et les dessins, dont je suis très fier. Et j'espère aussi de compléter ce projet en faisant une BD, une vraie BD, qui explique l'histoire de ces personnages.
Vous pouvez nous présenter un petit peu ce spectacle qui aura lieu ce soir, donc à l'espace Franquin d'Angoulême.
Oui, c'est passé à l'espace Franquin d'Angoulême, dans la salle Buñuel, et sera fait à 8h30 le samedi ce soir, et dimanche et demain à 13h. C'est un spectacle de 45 minutes, c'est assez vite, mais qui est la première fois dans l'histoire des concerts dessinés, raconte dans sa intégrité, dans la série d'une série de chansons, de 6-7 chansons, une histoire. Que c'est l'histoire de cet musicien visionnaire, son voyage de son village, des montagnes loin de son petit village, à la recherche de son rêve, qui est la mélodie absolue, qui est enfin le succès personnel, la réalisation de ses rêves artistiques. Et une fois qu'il est arrivé dans la grande ville où il trouve le succès, l'argent, tout ce qu'il voulait, il découvre que cette mélodie absolue était dans ses racines. Et donc il décide de revenir à l'arrière. Et c'est un peu une petite poésie visive qui raconte un peu l'histoire de tout nous, qu'on rêve d'arriver dans un bout loin et à la fin on découvre que notre bonheur est dans notre maison, dans l'harmonie avec les parents, notre famille, comme ça.
Donc au niveau du spectacle, il y a des musiciens et puis vous dessinez. Vous êtes seul à dessiner?
Alors oui, il y a sur la scène, il y a un chanteur et trois musiciennes, et qu'il fait aussi, on fait un peu on bouge, on acte un peu, on fait des scènes à jouer. À l'arrière, il y a l'écran avec une projection de dessins, mais car il y a beaucoup, beaucoup de dessins, ce n'est pas comme un concert dessiné comme traditionnel où chaque chanson, il y a un seul dessin, mais dans chaque chanson, il y a plusieurs dessins qu'ils vont, pour cette raison, en vitesse accélérée. Ce n'est pas possible de les faire live. Et de plus, les chansons sont en italien. Et on n'a pas voulu trahir l'originalité de ça, donc on a dû faire les sous-titres en français. Donc c'est pour ça que c'est tout projeté. Et la chose intéressante de ce projet, c'est que j'ai trouvé une façon de filmer la main qui descend, où on ne voit pas la main. Parce que j'ai posé la caméra au-dessous de table transparente, et donc on voit les dessins qui se créent tout seul sur l'écran. Il donne l'impression d'avoir un dessin qui se bouge, même si on ne bouge pas. Et comme ça, on ne gêne pas la perception de l'histoire en voyant une main qui dessine. Et donc, bon, ça se donne aussi un côté magique aussi à notre spectacle. Les mots et les visionnaires.
Un mot sur l'ambiance du festival, parce que c'est les 40 ans.
Oui, c'est un grand honneur d'être ici. Je ne viens pas à Angoulême il y a 4-5 années. Je suis toujours étonné de voir combien de gens il y a, combien de collègues on peut retrouver. Pour moi, que je viens en Italie, dans une petite ville où personne s'intéresse à la BD comme ça, quand je viens ici, mon ego a une grande satisfaction.
Cette année, on a une question un petit peu particulière. On va vous demander si vous pouviez choisir en animal de compagnie parmi ces quatre propositions. Vous prendriez lequel? Et les quatre propositions, c'est soit un alien, soit un gremlins, soit la chenille d'Alice ou un phénix.
Je prendrai l'alien parce que j'ai fait l'alien, avec le film de Ridley Scott, qui est pour moi un des points, pour moi, topiques de la création de mon background culturel. Il y a le lien avec la BD parce que Mebius a collaboré à la réalisation de la conception visuelle de ce film. Et donc pour moi c'est très important au niveau d'imaginaire.
Merci
à vous.